Mika Podcast.
Ésotérisme, paranormal et mystère.
Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur un ouvrage assez particulier qui a beaucoup fait parler dans les milieux ésotériques francophones, Histoire et doctrine des Rose-Croix de Sédir.
Ah oui, Sédir. Un texte dense, hein, qui essaye de démêler un peu les cheveux de cette fraternité légendaire, on peut dire.
Exactement, légendaire. Notre but, c'est d'essayer de voir ce que Sédir, lui, nous en dit. Qui étaient ces Rose-Croix? Quels enseignements sont mis en avant?
Mais justement, ce que Sédir analyse, ce sont des documents qui décrivent une confrérie dont l'existence même, historiquement, est débattue. Souvent à travers des textes du XVIIe siècle très allégoriques.
Et pourtant, un prestige énorme attaché à leur nom, c'est ça?
Tout à fait. Un prestige fou, qui contraste avec le flou historique. Et Sédir relève bien les paradoxes dans les descriptions. Humble, mais fier. Pauvre, mais potentiellement richissime. Très courtois, mais assez détaché des émotions humaines. C'est assez curieux.
Entrons un peu dans le détail. Il y a ce texte fondateur que Sédir commente longuement, la Fama Fraternitatis.
Oui, la Fama. Elle raconte cette histoire, presque un mythe de Christian Rosenkreuth. Ses voyages initiatiques en Orient, la fondation de l'ordre.
Et surtout, ses fameuses règles. 6 règles très très strictes pour les membres, si je me souviens bien.
C'est ça. Guérir mais gratuitement, pas d'uniforme spécifique pour passer inaperçu, se réunir une fois par an, en secret.
Choisir son successeur aussi, utiliser le sceau RC, et le plus incroyable peut-être, garder le silence total sur l'existence de la fraternité pendant 100 ans.
100 ans, oui. Ça donne une idée de la patience, ou du moins de l'ambition du projet, n'est-ce pas? C'est pas une petite société secrète qui veut faire un coup d'éclat rapide.
Non, clairement pas.
Et ce secret, il est lié au cœur symbolique que Sédir explore, la fameuse rose sur la croix.
Ah oui, le symbole central.
Voilà, la rose qui peut représenter la beauté, la connaissance secrète, l'œuvre alchimique. Et la croix, bon ben, symbole chrétien du sacrifice, de la foi. Réunir les deux, c'était ça le défi de la haute initiation, selon les textes.
Et une orientation chrétienne très marquée, donc.
Très nette, oui. Mais attention, souvent en opposition, voire en franche hostilité avec l'Église de Rome, Sédir n'hésite pas à les qualifier d'antipapistes.
Ah oui, quand même.
Il parlait d'une Église intérieure directement liée au Christ et ne reconnaissait que le baptême et la scène. On sent aussi des influences peut-être gnostiques ou des liens avec des courants comme les albigeois ou même l'œuvre de Dante. C'est complexe.
C'est fascinant cette tension. Et puis il y a l'autre facette, celle qui fait rêver, non? Le côté plus merveilleux.
Ah bah oui, l'alchimie, la pierre philosophale pour changer le plomb en or, l'élixir de longue vie, c'est dire rapporte ces histoires.
Comme ce Gualdi à Venise qui avait l'air de pas vieillir, ou la tombe découverte avec une lampe qui brûle toute seule depuis des siècles.
C'est ça. Des anecdotes qui alimentent la légende, forcément. Mais Sédir insiste beaucoup, en s'appuyant sur d'autres auteurs, comme Flude ou Paracels, pour dire que l'essentiel n'est pas là.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ces pouvoirs, même s'ils existaient, ne devaient absolument pas être utilisés de manière égoïste. Les règles étaient claires là-dessus. La vraie quête, la vraie alchimie, elle est intérieure, spirituelle.
La transformation de soi, en somme.
Exactement. La sagesse, elle vient de Dieu, par le Christ. C'est ça le message central. Donc, purification, humilité, détachement du monde matériel, une piété très forte. Il cite même l'imitation de Jésus-Christ comme un manuel de base pour eux.
Donc on est loin de l'image d'une simple société secrète cherchant des pouvoirs occultes, quoi.
Voilà. Pour Sédir, en tout cas à travers les sources qu'il juge authentiques, la fraternité se voyait comme un ferment pour une rénovation générale du monde. C'était lié à l'attente d'une figure, un prophète nommé Elias Artiste.
Une sorte de préparation à un nouvel âge futur?
Un peu, ça oui. Mais le but ultime, ça restait la régénération spirituelle de l'individu, l'union au Christ. C'est vraiment ce noyau christique que Sédir met en avant comme essentiel pour comprendre ce qu'était, ou ce que devrait être, la vraie Rose-Croix. Il met en garde contre les imitations, les dérives.
Bon, pour résumer, ce que Sédir nous présente, c'est une tradition vraiment complexe. Un mélange d'histoires difficiles à pister, de légendes très fortes, de symboles hermétiques.
Ah oui, et d'une spiritualité chrétienne très exigeante qui vise une transformation radicale. De l'individu, mais aussi du monde.
C'est une vision assez profonde, finalement.
Et il y a une dernière pensée de Sédir, dans sa conclusion, qui est assez interpellante, je trouve. Il suggère que l'Évangile, en fait, contiendrait déjà tout ce qu'il y a dans l'initiation rosicrucienne. Et même plus.
Ah oui.
donc là. Mais ça pose la question. Au fond, est-ce que le secret ultime de cette fraternité si mystérieuse ne serait pas, au fond, une voie spirituelle accessible à tous, dans les évangiles, plutôt que des secrets réservés à une élite cachée ?
Une question intéressante pour terminer. Ça invite à relire les textes différemment, peut-être. C'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.
Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.